20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 19 juillet 1900. Le métro parisien est inauguré. À l'époque, il fait 10 km. Paris devient une ville moderne. Nous sommes le 19 juillet 1900. Paris est le centre du monde. La capitale accueille l'exposition universelle pour la 5e fois. 11 ans auparavant, c'est la Tour Eiffel qui était au centre de tous les regards, de toutes les attentions et de toutes les critiques évidemment. Mais cette année, la surprise ne se fera pas en levant les yeux, non, au contraire, c'est sous nos pieds que les choses se passent. Et au vu de la température caniculaire en cet été 1900, c'est tant mieux. À 13h, les badauds se pressent à l'ouest de Paris. C'est de la Porte Maillot que vont s'engouffrer les premiers visiteurs audacieux pour une nouveauté qui attise leur curiosité. Imaginez un train qui traverse la capitale sous la terre. Cette première ligne de métro s'étend sur environ 10 km. Deux choix s'offrent aux premiers usagers. Un billet orange à 25 centimes d'anciens francs pour un voyage en première, les fesses bien calées sur des banquettes rembourrées de cuir brun. Ou bien un billet beige à 15 centimes d'anciens francs pour un voyage en seconde, le popotin posé sur des sièges en bois verni. Trois voitures sont à quai. Elles sont éclairées par 10 lampes électriques chacune et elles peuvent accueillir 26 voyageurs assis et 30 debout. La fermeture des portes n'est pas automatique, c'est un employé qui s'en charge. Allez, c'est parti, roule ma poule. Après une demi-heure de trajet entre lumière et obscurité, dans une odeur de cave, ont-ils rapporté, les voyageurs les plus audacieux qui ont vaincu leur peur sont les premiers à vivre cette expérience incroyable et arriver au terminus Porte de Vincennes. Tout s'est bien passé. Aucun voyageur n'a succombé à une asphyxie. Aucun immeuble ou tunnel ne s'est effondré au passage du train. Fulgence Bienvenue peut donc souffler et jubiler. C'est à lui, cet ingénieur diplômé de Polytechnique, que l'on doit ce projet pharaonique. Durant toute cette période, il a tenu bon, persuadé qu'il allait, comme Haussmann en son temps, révolutionner Paris. Il a essuyé toutes les polémiques possibles, mais aujourd'hui, les opposants au métropolitain sont priés d'aller user leur salive ailleurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, c'est le magazine qui remonte le temps, qui vous rappelle ou qui vous fait découvrir des actualités marquantes. Et ce soir, oulala, on le remonte vraiment puisqu'on file en 1900. Après Londres, en 1863, New York, 5 ans plus tard et quelques autres grandes villes du monde, Paris peut enfin s'enorgueillir d'avoir son métropolitain. Nous sommes en 1900 et on fête le métro en grande pompe dans le cadre de l'exposition universelle qui cette année-là célébrera aussi le magnifique Grand Palais. Et si aujourd'hui les usagers du métro s'en plaignent davantage qu'ils s'en réjouissent, eh bien le 19 juillet 1900, les premiers passagers n'en croyaient pas leurs yeux. Écoutez ce monsieur.
Mais aussitôt que le chef de train a donné le signal du départ par un petit coup de trompette, j'ai bondi de ma place, je me suis collé le nez sur la vitre de la cabine du conducteur, et là j'ai fait tout le voyage le nez collé à la vitre. J'ai entendu d'abord des déclics, de très forts déclics, et au même moment, j'ai vu jaillir des étincelles et des grosses lueurs bleues. Alors je vous garantis qu'à ce moment-là, j'étais pas très rassuré. Et en arrivant, j'étais tellement content que lorsque j'ai rencontré mes petits camarades le soir, eh bien je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Et je leur ai dit, vous savez, il faut y aller voir parce que c'est bigrement chouette.
C'est bigrement chouette, le métropolitain. Un son, effectivement, de l'un des premiers passagers du métro lors de l'inauguration. Ce son qui date des années 50. Grégoire Tonnat, bonsoir. Vous êtes auteur de livres d'histoire et directeur de collection pour les éditions Pierre de Taillac. Et vous êtes auteur du livre Petite histoire du ticket de métro parisien aux éditions Télémac. Dis donc, c'est quand même dommage qu'on n'ait plus le petit coup de trompette au départ.
Ah oui, il a disparu il y a fort longtemps quand même.
Mais oui, oui, mais il y avait c'est un génial. Petit
en fait, oui, il y avait beaucoup de personnel. Hein. Une rame de métro en 1900, puisqu'on va parler du jour J. Vous avez un conducteur, un chef de train, et dans chaque wagon, vous avez une personne qui ferme les portes.
Ouais.
Vous imaginez le nombre de personnel. Donc oui, pour faire marcher ce petit monde, à la baguette entre guillemets, eh ben, il y a un ding-ding, effectivement, qui lance le départ.
C'était génial. Et c'est vrai qu'il fallait être, et on y reviendra, mais sacrément audacieux pour prendre ce premier métro. Parce qu'en fait, on en a dit énormément de choses sur le métro. Et ce monsieur faisait partie peut-être des courageux du jour.
Les plus aventureux, tout à fait,
exactement.
Effectivement. Il y a eu beaucoup, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, de fake news.
Ouais.
Juste avant l'inauguration du métro, qui racontait que ça allait être un bouillon de culture, qu'on a attraper des plein de maladies, qu'on allait mourir étouffé, j'en passe, et des meilleurs. Mais il faut resituer les choses dans le contexte de l'époque, on est en 1900.
Ouais.
Et en 1900, la traction électrique, d'abord, elle est toute récente. Descendre sous terre, c'est pas naturel. Donc ça, plus ces fake news, bah, c'était pas gagné au début.
Comment
en fait, ça va l'être très vite. Mais
comment est-ce qu'on se déplaçait à l'époque?
Ben alors, l'omnibus à cheval.
Oui, exactement.
Voilà, hein, Madeleine Bastille, le plus connu, une ligne importante. Vous aviez des tramways, réseau de surface. D'abord, des tramways sous Napoléon III, des tramways hippomobiles, à traction hippomobile, et puis des tramways électriques.
Ouais.
Voilà. Et puis après, les bus, mais ils sont apparus au début, un petit peu après, le premier bus automobile de Dion Bouton, c'est 1906.
Ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux, cette idée de métro, parce que je le disais, on est quoi? On est 40 ans après Londres,
c'est,
quoi.
Londres, c'est 1863, de mémoire. Ouais. Oui, il y a eu une bonne dizaine de projets, déjà sous Napoléon III, au moment où il faut se rappeler que Napoléon III donne la physionomie actuelle de la ville de Paris en absorbant un certain nombre de villages qui étaient périphériques à Paris, Auteuil, etc. Et la ville, évidemment, la population augmente et il faut gérer tout ça de plus en plus. Et donc, bah, les transports, c'est indispensable.
Alors, on s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs. Et puis, être une ville plongée aussi dans la modernité, plongée dans l'avenir, c'est avoir son métro.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'exposition universelle. Et c'est ça le levier qui va faire que, ça fait donc des années qu'on se dit, il faut un réseau de métro. Et on se dit, on peut pas accueillir le monde entier. Il y a plus de 50 millions de visiteurs qui vont venir voir l'exposition universelle. Et on ne peut pas leur offrir des transports en commun modernes. C'est ça le bras de fer. Donc, il est fait à marche forcée, le métro, en 2 ans. Et d'ailleurs, le jour de l'inauguration, enfin, on va l'évoquer, toutes les stations ne sont pas ouvertes.
Oui,
il est inauguré en retard. Et voilà.
C'était effectivement une ligne d'une dizaine de kilomètres ce jour-là. Voilà, juste une ligne. Alors que le réseau aujourd'hui, on y reviendra, fait 220 kilomètres environ. Donc, être moderne, c'est avoir son métro. En préparant cette émission, et d'ailleurs en préparant tous les jours J, je dirais depuis le mois d'août, on se rend compte à quel point les expositions universelles ont changé les contours de Paris, en fait, Grégoire.
Bien sûr, c'est un accélérateur.
Incroyable.
C'est un accélérateur. Et puis d'abord,
je parlais du Grand Palais, il y a la Tour Eiffel, enfin,
le Palais de Chaillot.
Le Palais de Chaillot, le Musée d'Orsay, la gare d'Orsay.
Le Palais de Tokyo.
Exactement, c'est incroyable aussi.
Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été construites, qui ont été détruites à cette occasion-là. Et certains ont effectivement été sauvés, mais oui, bien sûr, ils façonnent la ville.
On va se retrouver dans un instant, parce qu'on va parler de ce métro, de cette journée d'inauguration, mais surtout, à un moment donné, comment on a construit le métro sous Paris, parce que c'est là aussi que Paris est devenu un chantier à ciel ouvert. Ce sera avec vous. On se retrouve tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci pour votre écoute attentive à Jour J. Tiens, d'ailleurs, peut-être nous écoutez-vous dans le métro parisien, on ne sait jamais. Et peut-être même connaissez-vous la station Montparnasse, bienvenue. Eh oui, ils sont paulés dans le quartier, vous êtes-vous dit. Eh bien, pas seulement, figurez-vous. C'est aussi et surtout une façon de rendre hommage à un inventeur breton, Fulgence, bienvenue, à qui l'on doit ce plaisir quotidien de relier des quartiers de Paris en quelques stations souterraines. Grégoire Tonnat, vous êtes notre invité dans Jour J. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes auteur de différents livres d'histoire. Fulgence, bienvenue. Le bien nommé, et pourtant on le verra, il n'a pas été super bien accueilli sur le projet du métro parisien. Qui était-il? Breton?
Oui, un breton, c'est un ingénieur en fait qui a fait les arts et métiers, qui travaillait déjà sur le chemin de fer. Et au moment où il prend effectivement la direction des travaux de la construction du métro, il s'occupe de tout ce qui est système d'eau, d'assainissement et d'alimentation en eau de la ville de Paris. Donc il travaille déjà pour la ville de Paris et il est déjà sur des problématiques de, on va dire, de tuyaux.
Oui, bah oui, c'est ça, parce qu'effectivement il a fallu en creuser certains. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé sur ce projet du métro? C'est lui qui l'a apporté? Enfin, on l'a dit, Paris était une ville qui se devait d'avoir un métro. C'est un projet qui a été précipité, par l'exposition universelle. Comment lui s'est retrouvé là-dedans?
Parce que la proximité, parce qu'il travaille déjà pour la ville de Paris, parce que il faut rappeler que c'est la ville de Paris qui finance, en fait, tous les investissements liés aux infrastructures.
Oui.
Lourd. Et lui, évidemment, gravitant dans cet écosystème-là, bah, il a cette capacité. Il a déjà travaillé dans l'univers du chemin de fer et il travaille pour la ville de Paris. Donc, ceci explique cela.
Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est un projet pharaonique. Qu'est-ce qu'il propose au départ? Il propose le plan d'une ligne ou est-ce qu'il propose un réseau, finalement,
alors,
de métro parisien?
Alors, c'est pas Fulgence Bienvenue. Fulgence Bienvenue, c'est un ingénieur. Donc, il s'occupe de la construction des infrastructures. Le plan, en fait, il est défini en conseil municipal, en conseil de Paris. Donc, ce sont les élus qui vont décider des futurs tracés qui certes, pour certains, vont être modifiés parce qu'on va rencontrer quand même quelques problèmes.
Ouais.
Mais voilà, Fulgence, lui, il exécute. Voilà,
d'accord.
Il exécute, mais enfin, avec talent, et puis pendant 30 ans. Parce que c'est lui quand même qui donne la physionomie au réseau qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, et qui effectivement est beaucoup plus balèze, je dirais, aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, parce qu'en fait, il a fait une ligne. Il y avait une ligne qui était pouvait utiliser.
Si on parle du jour J, c'est...
Voilà. Absolument.
Donc au début, mais non, lui, en fait, il va accompagner le déploiement du métro, la construction métro pendant 30 ans. Il restera à sa table de travail. Il a plus de 80 ans. Il prend sa retraite, il a plus de 80 ans. Il va accompagner et il va même penser les premiers... donc il va construire un certain nombre de lignes. Je ne veux pas dire du bêtise, mais je crois que c'est une dizaine finalement, mais sur 30 ans, bien sûr. Et il va même penser les prolongements en banlieue.
Oui.
Ce qui n'était pas le schéma de départ, parce qu'il faut se rappeler qu'on avait pensé le métro pour desservir Paris intramuros pour deux raisons. C'est que, d'abord, vous avez une barrière d'octroi. Mmh. C'est-à-dire que les marchandises ne rentrent pas dans Paris sans payer des frais de douane. Mmh. Cette barrière a disparu, même si elle était partie un petit peu en déliquescence, mais elle a disparu pendant l'occupation. C'est le régime de Pétain qui la supprime. Et puis deuxièmement, la banlieue, c'est ouvrier. Donc on se méfie aussi de ça. Donc,
on ne veut pas faire venir la banlieue à Paris.
Mais c'est un peu ça, bien sûr.
Je
reviens au premier point. Vous avez une douane, vous rentrez pas. Donc on va pas mettre en place un système de transport quotidien qui permettrait de faire rentrer des marchandises sous terre et donc de soustraire ça aux droits de douane.
D'accord. Donc ça doit être, on l'a bien compris, intramuros. Et un jour, Paris se retrouve éventré, en fait, parce que c'est pharaonique.
Ah bah c'est. Alors il est vraiment éventré au sens propre du terme. Parce que si vous regardez le tracé de la ligne 1, et les auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent prendre la ligne 1 vont comprendre ce que je raconte, c'est que les techniques de construction au début du métro, on travaille en tranchées. C'est-à-dire qu'on fait une tranchée qu'on va recouvrir après. Ça, c'est le cadre de la ligne 1. Et puis très vite, on va, entre guillemets, se professionnaliser. Et après, on va faire des puits de forage et on va aller creuser vraiment des galeries. Mais la ligne 1, elle, est faite en tranchées. Elle éventre. Évidemment, dans sa diagonale, Paris. Et la rue de Rivoli, vous avez des photos de l'époque où on voit, il n'y a plus la rue de Rivoli, c'est une tranchée, voilà.
Mmh.
Et on peut le voir en prenant la ligne 1 parce que, en fait, les stations de la ligne 1 ne sont pas voûtées.
Mmh.
Elles ont un plancher métallique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette tranchée, après, on a recouvert pour remettre une chaussée, mais donc c'est une structure métallique. Et à l'inverse des autres lignes. Alors, je parle pas des lignes aériennes, bien évidemment, mais après, très très vite, les autres lignes, le tunnel, il est voûté. Voilà. C'est la différence.
Donc, cette première ligne, ça a été un petit peu le baptême du feu, je dirais, pour les ingénieurs et pour ceux qui ont construit donc cette première ligne au cœur de Paris. Quels sont les autres obstacles auxquels ils ont été confrontés? Parce que Paris, c'est pareil, c'est une ville qui s'était érigée sur bien des secrets, sur les catacombes, le passage de la Seine. Enfin, ils ont dû rencontrer un terrain qu'ils ne connaissaient finalement pas si bien.
Alors oui et non, parce que c'est quand même cartographié. Alors oui, Paris est un gruyère, bien sûr. Vous avez parlé des catacombes qui étaient des carrières, qui servaient à construire aussi. On allait chercher des choses en dessous pour construire au-dessus. Voilà. Ensuite, vous avez les égouts. Voilà, il a fallu faire ce qu'on appelle des dévoiements, donc détourner certains collecteurs d'égouts qui ont été, je le rappelle, créés et développés sous Napoléon III pour assainir la ville. Et puis il y a la Seine, oui, qui est un obstacle majeur. Et construire sous le fleuve, enfin sous un fleuve, effectivement, c'est très compliqué. Alors,
ils sont passés en dessous.
Oui, alors ça, c'est pas pour la première ligne, puisque la première ligne, effectivement, évite de traverser la Seine, puisqu'elle est le plein. Et les secondes qui ont été construites, donc aujourd'hui actuelles, deux. Ligne 2 et ligne 6, elles sont en aérien. Donc, on a chevauché la Seine. Mais après, aujourd'hui, c'est ce qu'est la ligne 4. Alors là, c'est au début, c'est un petit peu après, vers 1903-1904, on a utilisé une technique absolument incroyable. C'est qu'on a isolé le tronçon sous lequel le tunnel devait passer et on a glacé la selle.
C'est-à-dire
qu'on a fait venir, on savait faire de la glace, des glaçons, donc congeler l'eau, et on a glacé la Seine pour travailler en sécurité. Ah, vous avez des photos. En fait, il y a une partie du lit de la Seine, enfin d'un tronçon de la Seine, qui est coupée, et cette partie-là, on fait venir une machine qui fait de la glace, et on glace la Seine. Et on peut travailler en sécurité sous la Seine. Parce qu'évidemment, le risque, c'est qu'il y ait des infiltrations et que tout s'effondre. Et voilà. Il y a eu ça. Et puis, il y a un autre système, un système de caissons. En fait, on fabriquait des caissons métalliques qui flottaient et après qu'on a coulé aussi sous la Seine. Mais c'est une aventure à l'époque.
Mais c'était carrément ingénieux. Est-ce qu'il y a eu des accidents ?
Oui, il y a eu des accidents. Il y a eu quelques morts, mais finalement, pour l'époque, pas tant que ça. Voilà. Oui, il y a eu quelques morts, bien sûr, parce que c'est des chantiers pharaoniques, vous l'avez dit tout à l'heure, donc inévitablement, voilà. Puis les normes de sécurité ne sont pas tout à fait les mêmes.
Évidemment, on va se retrouver dans un instant, on va revenir sur l'accueil du projet, cette fameuse construction, et puis envers et contre tout et tous, hein, parce que Fulgence, bienvenue, il a tenu bon, mais c'est sûr qu'il n'a pas été aidé. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgi qui se poursuit et qui vous raconte ce soir l'histoire d'un circuit souterrain long aujourd'hui de 220 km qui a été inauguré sur une première ligne qui en mesurait 10. C'était le 19 juillet 1900. Le métro parisien ce jour-là a été emprunté par les plus audacieux qui avaient su rester sourds aux funestes prévisions des sceptiques.
Les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur. En voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant « Mon Dieu, le soleil est tout de même plus beau que la cave. » C'était une véritable cave.
Mais qu'est-ce que c'est touchant d'entendre ça, Grégoire Tonnat, donc les premiers utilisateurs du métro. D'ailleurs, effectivement, on s'est beaucoup plaint de l'odeur. Ça pue toujours le métro, mais à l'époque, on n'allait pas sous terre et les gens disaient que ça sentait les champignons, ça sentait la cave et que c'était une odeur extrêmement dérangeante pour ceux qui l'utilisaient pour la première fois.
Alors il y a plusieurs choses sur l'odeur, si vous voulez qu'on parle de ça. Il y avait ce qu'on appelle du créosote, qui est une espèce d'huile qui est le fruit de distillation de charbon qu'on mettait sur les traverses qui tiennent les rails. Ça, quand c'est neuf, elles viennent d'être traitées, ça sent une odeur. Et il est probable, j'y étais pas ce jour-là, mais que cette odeur, effectivement, les gens ont dû la sentir en descendant dans le métro. Après, il y a une autre explication sur l'odeur du métro. Je peux vous la raconter si vous voulez.
Ah, mais bien sûr, au contraire.
Parce que vous dites que ça pue, mais il y a des gens qui aiment cette odeur.
Ouais.
J'ai interviewé quand j'ai fait mon livre à l'époque.
Ah, vous parlez du métro actuel.
Oui, mais même, oui. Ça n'a pas changé.
D'accord.
Parce qu'une odeur, c'est toujours une composante de plusieurs odeurs. La composante principale aujourd'hui du métro, même s'il est en train de changer parce que les matériels deviennent plus modernes et les systèmes changent, en fait, elle est liée au système de freinage du métro. En 1900, on l'a évoqué plusieurs fois tout à l'heure, c'est une gageure de faire descendre les gens sous terre, ouais. Pour plein de raisons. Et il y en a une, mais que les gens n'ont pas évidemment subi parce qu'ils l'avaient anticipé, c'est qu'une rame de chemin de fer à l'époque, c'est une roue de métal et avec un système de patins qui s'applique sur la roue pour faire freiner le train. Il faut que le train freine au bout d'un moment. C'est du métal sur du métal. Quand ça chauffe, ça fait un bruit insupportable. D'accord. Alors en extérieur, un chemin de fer, pas de problème. Mais quand vous êtes en souterrain, c'est impossible, invivable. Et donc vous arrivez à fuir les gens. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont cette idée d'adapter en fait, de faire des sabots en bois de hêtre, qui est un bois très résistant, qui vont baigner dans une friteuse géante d'huile. L'huile permettant de répartir l'effort et la chaleur pour éviter que ça ne s'enflamme. Et ça, c'est la composante principale de l'odeur du métro qu'on trouve encore aujourd'hui. Vous marchez sur les grands boulevards, vous passez au-dessus d'une grille d'aération du métro, sentez le métro. Alors vous dites, ou certains disent, ça pue. Moi, j'ai interviewé Michel Morgan, qui me disait, Grégoire, en 45, je suis revenu à Paris après 5 ans d'occupation, et voilà. Et j'ai pris le métro pour sentir l'odeur du métro parce que c'était ma Madeleine de Proust et ça me rappelait 10 ans avant quand j'étais étudiante.
Ça peut sentir mauvais et rester une Madeleine de Proust olfactive, si je peux me permettre.
Ça peut sentir le vomi, ça peut sentir
plein de choses. Alors exactement, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement l'odeur du métro, et je vois très bien ce que voulait dire Michel Morgan, et on peut en trouver d'autres dans la vie. Moi j'ai été élevée dans un haras, par exemple, l'odeur du purin, c'est quelque chose moi qui éveille chez moi des souvenirs émouvants d'enfance. Et pourtant, ben voilà, c'est ça. Donc c'est dire. Et effectivement, là où vous avez raison, parce que je maintiens ce que je disais, mais je comprends ce que vous voulez effectivement nous expliquer, c'est que il est des odeurs. Le métro, et c'est l'odeur des gens, c'est l'odeur du travailleur, c'est l'odeur du laborieux, c'est l'odeur effectivement de la personne qui va uriner dans un coin, c'est l'odeur de la bouffe, c'est quand même l'odeur de la vie, quoi.
Ouais, bien sûr,
ce sont toutes les odeurs parisiennes
réunies. C'est un lieu de brassage,
réunies.
Donc voilà. Forcément. Ouais.
Bon, en tout cas, ce métro, maintenant qu'on l'a dit, a été surnommé par ceux qui le craignaient, par ceux qui colportaient ces fameuses fake news dont vous nous parliez en début d'émission. À l'époque, on n'appelait pas ça des fake news.
Non.
Hein,
voilà,
on
y croyait. La même chose. Hein.
Mais c'est la même chose. On appelait ça le nécropolitain avant même qu'il existe.
Oui, on disait que c'était indigne pour Paris, que ça allait défigurer Paris, que d'abord ça serait dangereux, donc insalubre, etc.
On a dit que les immeubles se casseraient la
figure.
Oui,
ce qui est arrivé, et même récemment encore sur la construction de la ligne 14, il y a des affaissements de terrain. Alors les ingénieurs le gèrent plus ou moins, on fait attention à ça, etc. Bien sûr, oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, parce que c'est pas une science exacte de creuser sous terre, vous tombez sur une nappe phréatique, tout d'un coup, bah, c'est arrivé, hein, plusieurs fois. Et tout d'un coup, il y a des centaines de tonnes de flotte qui vous dégringolent sur la gueule, voilà. Alors maintenant, on les traite, voilà. Donc oui, il y a ce risque-là.
En fait, on a énormément fantasmé sur et je peux le comprendre, hein, parce que je sais pas si j'aurais été la première à prendre le métro, moi, hein, parce que de se dire que tout à coup on allait construire sous une ville existante avec ses bâtiments, avec son poids, avec c'est quand même quelque chose de
oui.
flippant, je trouve.
Alors absolument. Et puis il faut pas oublier que le métro, il entrait aussi en concurrence avec le réseau de surface, les compagnies d'omnibus et les compagnies de tramway. Et donc, on a un nouveau concurrent arrivait. Donc, eux aussi ont attisé un petit peu les braises.
Je comprends.
Bah oui, parce que c'était du business qui potentiellement pouvait s'en aller.
Je comprends.
Ce qui n'a pas été le cas. Mais il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'en fait, ça desservait certains intérêts. Mmh. Donc, ils ont aussi agi et fait en sorte que c'est du lobbying. Hein, voilà, mais rien de nouveau en ce bas monde.
Est-ce que le premier métro ressemblait à un train de surface, mais qu'on faisait circuler sous terre ?
Ah non, le gabarit est plus petit. Le gabarit est plus petit parce qu'on a une contrainte, évidemment, de construction. C'est que le tunnel, il ne doit pas être trop grand. Le RER, ça sera plus bien longtemps après, etc. Mais à cette époque-là, non, on a une contrainte énorme de gabarit. Donc, les premières rames, elles ressemblent plus, elles sont proches en termes de gabarit, à des rames de tramway.
Ouais.
Voilà. Très vite, ça va changer parce qu'en 1903, il y a un accident dramatique au métro Couronne qui fait plus de 70 morts. Et en fait, les rames étaient en bois. Et à ce moment-là, là, on passe à autre chose. Tout est métallique. Et là, ça prend la physionomie quasiment qu'on connaît aujourd'hui. Même si les rames, ces dernières années, ont beaucoup évolué. Mais voilà. Mais au début, ça ressemble plus à un tramway.
L'évolution du métro, on va y revenir dans un instant. On va revenir à l'époque des poissonneurs. Il y avait aussi une première et une deuxième classe, comme je l'expliquais en tout début d'émission. Et puis les chanteurs dans le métro. Enfin bon, on va revenir sur tout ça dans un instant avec vous sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Grégoire Tonnat nous fait voyager dans l'histoire du métro parisien ce soir. Et depuis sa création, il a beaucoup évolué, le métro. Hein, pas forcément Grégoire. Enfin, peut-être que vous avez évolué aussi, vous Grégoire, d'ailleurs, je vous le souhaite.
J'ai pris en maturité.
Merci d'être notre invité. Alors, il y a un instant, on disait que le premier métro en 1900 avait des allures donc de tramway. À l'époque, les portes, évidemment, n'étaient pas automatiques. Il y avait donc énormément de personnel. Hein. Il y avait le personnel qui ouvrait la porte, qui refermait la porte. Il y avait le commandant de bord et le poisson. Le commandant de bord, enfin le pilote, quoi. Le conducteur de la locomotive, parce
alors,
qu'on parle d'un train.
On dit des voitures.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Le vocabulaire est un petit peu différent entre les trains de surface et les grands formats et le métro, c'est un petit peu différent.
Bon, donc il y a
pas de commandant de bord, Flavie.
Non, mais c'est quand je dis un commandant de bord.
En fait, il y a un chef. Ce que vous voulez dire, sans doute, c'est qu'il y avait un chef de train.
Ah non, je veux dire un commandant de bord, mais moi je me comprenais très bien. C'est ça qui est marrant. Non, mais en fait, comment il le conduisait alors ?
Ah ben il y a un conducteur,
voilà,
qui conduit,
le conducteur de la rame.
Qui accélère, mais il ne part qu'au départ, on parlait de la petite sonnette, du petit sifflet tout à l'heure, que donnait le chef de train, qui lui s'assurait que toutes les portes étaient fermées, et à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de danger, qu'on démarre pas avec des portes pas fermées, des voyageurs qui montent, et lui donnait le signal du départ, et le conducteur lancer la rame.
Est-ce que les poissonneurs existaient déjà ?
Ah bah bien sûr.
Dès le premier jour.
Oui, oui, oui.
Alors racontez-nous qui étaient les poissonneurs, justement.
Je suis le poissonneur des lilas.
Bah, en fait, c'est une population. Évidemment, il y en avait dans toutes les stations, sur tous les quais. Voilà, c'est à la fois au début des hommes, et puis très vite, d'ailleurs, notamment par la guerre de 14, la profession, entre guillemets, se féminise, puisque les hommes sont au front, et ça sera toujours mixte. Les derniers poinçonneurs vont disparaître au début des années 70,
c'est
en
vrai.
73. Mmh. Ils vont être tués par la bande magnétique.
Voilà, et par la modernité. Le poinçonneur, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était donc le monsieur qui venait contrôler les tickets de métro, on y reviendra.
Alors, qui faisait le contrôle à l'entrée de la station. Parce que vous pouvez avoir, en plus, un contrôleur. Mmh. D'accord. Qui faisait, il y en a encore aujourd'hui, qui contrôle si votre billet est bien en règle.
Et le poinçonner, il faisait un trou.
Ben voilà. Aujourd'hui, il est remplacé par une machine.
Voilà, c'est ça. Et il faisait un trou, et ça voulait dire que votre ticket était donc poinçonné.
Un petit trou, un dernier petit trou, mais on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Et à quelle période, justement, Grégoire Thonat, sont arrivés les escalators ?
Ah bah très tôt en fait, dès après la guerre de 14, parce que certaines stations sont construites très profondément et en fait on prend soin du voyageur et on évite de monter
les marches. Mais c'est super moderne, moi je trouve, les escalators, c'est dingue que c'est ça.
Oui, mais il faut se rappeler que même pendant l'exposition universelle, l'année où on inaugure le métro, celle de 1900, vous avez des tapis roulants en fait. Mmh. Et donc c'est vrai que c'est pour ça, c'est vrai que c'est une grande modernité. Mais encore une fois, les expositions universelles apportent des progrès à la ville, modernisent la ville et voilà, c'est ça.
En 1991, les voyageurs de première classe doivent changer leurs habitudes.
C'est la fin de la lutte des classes. C'est sûrement l'époque qui veut ça avec l'effondrement du marxisme. Bref, depuis ce matin, 1er août, dans le métro parisien, il n'y a plus de première classe. Démodée et pas rentable.
Hervé Claude, qu'on entend sur Antenne 2, c'est dingue parce qu'il y avait des classes jusqu'en 90, quoi, ouais, 91.
Il y a eu des classes. En fait, la première classe, elle a été une première fois supprimée en 1947 parce que le métro faisait face à un pic de fréquentation énorme. C'était juste après la guerre. La vie n'était pas complètement redevenue normale. Il y avait encore du rationnement. Et pour libérer de la place, on a annulé pendant un an, on a supprimé les premières classes pour gagner de l'espace. Il faut se rappeler qu'en 47, 46, 47, juste au sortir de la guerre, on faisait la queue à l'entrée du métro. On faisait pas la queue sur les quais pour rentrer. On faisait la queue dans les couloirs.
Oh,
parce qu'il n'y avait toujours pas d'essence, donc pas de véhicules, très peu de bus, etc. Donc elle est supprimée une première fois en 47. Elle est rétablie assez vite. Mais en fait, il y a une première tentative de suppression. Et ça, c'est le politique qui l'explique. C'est en 82. François Mitterrand est élu en mai 81. Il nomme au gouvernement des ministres communistes, dont un ministre des Transports communiste, qui lui-même nomme à la tête de RDP un communiste et qui symboliquement, dans ses premières annonces, dit lutte des classes, on va supprimer les classes dans le métro et tout. On est en 82. Sauf que les économistes, les mecs qui gèrent les budgets de la RATP, ils disent, oui, écoutez, président, ça ramène encore de l'argent. Mmh. Alors c'est vrai qu'il n'y avait plus de différence de confort, ce qui n'était pas le cas au début. Voilà. Et donc, en fait, pour ne pas se défausser, se déjuger, il fait un jugement de Salomon et on dit, les premières classes vont être maintenues aux heures creuses et supprimées aux heures d'affluence. Et ça, ça a duré de 82 à 91.
Mais qu'est-ce que ça a changé à l'utilisateur ?
Non, ça avait plus de sens. Ça avait plus de sens, on est bien d'accord. Voilà. Et finalement, en 91, elle est supprimée dans le métro. Ouais. Mais il faut attendre encore 1999 pour que la première classe soit supprimée dans le RER.
Incroyable.
Voilà.
C'était fumeur aussi à une époque.
Ah ben on fumait sur les quais de métro.
C'est dingue. Est-ce qu'on fumait dans le métro ?
Mais bien sûr, on fumait sur les quais de métro.
Ah, moi, j'ai pas connu. Oui,
ah,
mais
si,
dans,
si, si.
À l'intérieur de la rame. Non.
Ah non,
oui,
pas dans la rame.
D'accord,
ah non,
pas dans la rame.
Jamais dans les rames.
Mais sur les quais.
Vous avez
d'accord.
L'incendie de Couronne, qui est un drame absolu, donc il est interdit. Et c'est, on voit des plaques d'ailleurs de l'époque, vous trouvez ça chez les brocanteurs antiquaires, interdit de fumer et de cracher. Parce que les gens aussi crachaient. Voilà. Non, vous pouviez fumer sur les quais.
Racontez l'incendie de Couronne.
Donc les rames sont en bois, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Enfin, l'habillage, les parois sont en bois. Il y a un début d'incendie qui n'est pas très bien géré. Et c'est lié au ticket d'ailleurs, ça. Et donc le chef de train sent que c'est pas terrible. Demande, effectivement, entre Couronne et l'autre station, je ne sais plus laquelle. Enfin, il arrête le train. Il dit, on ne va pas prendre de risque. On va demander aux voyageurs de descendre et tout. Et les voyageurs descendent et commencent à gueuler en disant, attendez, nous, on a payé notre billet. On va aller finir notre voyage et tout. Bon, ils sont pas très contents. Et puis l'incendie, qui était plus ou moins bien maîtrisé, repart de plus belle. Et à ce moment-là, dans le métro, l'alimentation qui alimente l'éclairage de la traction n'est pas dissociée. Et donc, dans un mouvement de panique, les responsables du métro coupent l'électricité. Donc les gens sont dans le noir. Donc la fumée arrive, les mecs sont dans le noir, une partie des gens paniquent. À l'époque, il n'y a qu'une sortie. Et il y a une partie des gens qui vont vers la sortie et l'autre qui vont vers un mur. Et les gens meurent asphyxiés. Donc il y a, je ne sais plus, 70 ou 80 personnes qui meurent ce jour-là. Mais c'est des gens, en fait, qui sont restés sur le quai, qui ne voulaient pas évacuer, parce qu'ils disaient remboursez-nous notre billet et tout. Ils sont morts pour le prix d'un ticket de métro, en gros. Bon, c'est
triste. Eh bien, dis donc, voilà. Oui, c'est triste. Le ticket de métro, justement, on va en parler dans un instant parce que vous avez écrit un ouvrage super intéressant dessus. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes sous terre ce soir, le temps d'un voyage en métro avec notre invité Grégoire Thonat. Et en mars 2022, on arrêtera la vente des carnets de tickets de métro et le ticket à l'unité disparaîtra quant à lui en 2025, Grégoire. Et justement, vous êtes l'auteur d'un livre « Tickets de métro parisien » aux éditions Télémaque. Incroyable ce qu'un ticket de métro peut être le symbole de plein de choses.
Ouais, le ticket.
Incroyable.
Ouais, le ticket de métro.
Je vais les garder maintenant. Non, mais je vous assure, je vais les garder maintenant. Écoutez, on a tous marqué des pages avec un ticket de métro.
Bien sûr.
On a tous noté un numéro de téléphone dans les années 80, 90, 2000, quand on se faisait draguer. On laissait un numéro de téléphone qu'on écrivait à la va-vite sur un ticket de métro.
Bien sûr.
On a tous.
Le ticket de métro a plein d'autres vies, en fait.
Mais complètement.
Ça servait aussi de fil pour les gens qui se faisaient des pétards.
Ah oui,
Moi non plus, mais c'était l'usage. Voilà.
C'est fou ce qu'un ticket de métro, en fait, on se rend compte que quand il va disparaître, quelque part,
c'est
il nous
manquera. C'est un élément de l'imagerie parisienne.
Oui,
il est à la fois le reflet d'évolution de nos modes de vie, de nos modes de transport et donc de nos modes de vie. L'évolution du ticket, fond, forme, tarification, typo, il dit l'époque. Voilà. Mm. Le premier tarif réduit, donc en 1900, le 19 juillet 1900, vous avez trois tarifs. Première classe, deuxième classe et aller-retour. Il faut attendre 30 ans pour qu'on crée un quatrième tarif. C'est pour les mutilés de guerre. Les associations d'anciens combattants font du lobby et disent on a souffert, on a des droits, on va leur réserver des places dans le métro particulière, au même titre que les femmes enceintes et les personnes âgées, et ils auront un tarif réduit. Il faut attendre 48 ans, en 1948, pour qu'il y ait un deuxième tarif réduit pour les familles nombreuses. Mais on est déjà à la fin du baby-boom. Voilà. Et donc, à chaque fois, il raconte cette histoire de la vie, des modes de vie des Parisiens.
Il a changé de couleur.
Il a changé de couleur. Alors, de temps en temps, on peut l'expliquer. D'autre part, il a évolué. Il est passé du beige au jaune. Il est resté longtemps. Et pour des gens qui ont un peu plus de 40 ans aujourd'hui, le ticket jaune à bande marron, c'est le ticket chic, ticket choc, puisqu'il était aussi immortalisé par une campagne de marque nationale qu'avait fait la RATP, qui est restée longtemps, qui a frappé les esprits avec cette petite rengaine ticket chic, ticket choc. Voilà, donc ça. Et puis, c'est ce côté Madeleine de Proust, c'est-à-dire je vais garder mon ticket. Vous ouvrez dans votre bibliothèque, vous ouvrez un livre que vous avez lu il y a 20 ans.
On retrouve un ticket.
Vous retrouvez un ticket. Et tout de suite, il y a cet effet Madeleine de Proust. Vous savez comment les bouquinistes de la Seine à Paris appellent quand ils achètent un fonds, une bibliothèque, sur une succession, en fait, il feuillette toujours les pages. Et dedans, on trouve des choses. On va trouver une carte de visite, un ticket de métro, un trèfle à quatre feuilles. Et en fait, eux, ils appellent ça du nom de petite truffe. Donc un petit trésor.
C'est joli.
Voilà. Et moi, une partie de ma collection, elle vient de chez les bouquinistes.
Voilà.
À l'époque, ils me les mettaient de côté, ils m'en vendaient même pas, ils me les offraient, et voilà.
Les petites truffes.
Les petites truffes.
Il y a des artistes qui ont créé, en fait,
Alors, il y a pas mal d'artistes. Alors, le cinéma, le monde de la création, et voilà. Je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas dans le livre, que j'ai raconté il n'y a pas très longtemps sur, à l'occasion d'une autre émission. C'est que Pablo Picasso, au moment où il meurt, évidemment, il y a l'inventaire de sa succession, on imagine, il y a un léger enjeu. Voilà, qui est géré par Roland Dumas, l'avocat Roland Dumas, ancien ministre de François Mitterrand. Et quand on fait l'inventaire des biens de Picasso, en dehors de tous les tableaux, etc., on trouve des boîtes en carton, des boîtes de chaussures remplies de tickets de métro. Pourquoi Pablo Picasso gardait ses tickets de métro? On ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Pablo Picasso a vécu à Paris depuis le début du siècle, et il a passé les deux guerres à Paris, notamment l'occupation, où effectivement, il n'y avait pas d'essence, tout était rationné, et Pablo Picasso, comme tout le monde, prenait le métro. Edith Piaf prenait le métro. Quand vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas d'essence, vous prenez le métro. Moi, j'avais interviewé Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, qui m'avait raconté aussi une émotion d'adolescente qu'il avait eue, en faisant une correspondance. Il était étudiant, il allait à l'école, en métro. Et qui y voit, en faisant la correspondance au métro La Motte Piquet, sur le quai, Édith Piaf. Mais pour lui, Édith Piaf, jeune adolescent, chevelu de l'époque sans doute, il croise son idole du moment. Et Édith Piaf, en 42-43, c'est la vedette. Voilà. Et un jeune ado, voilà. Et des histoires comme ça. Et donc, alors je sais pas si Giscard a gardé son ticket de métro, c'était pas le genre de la maison, mais.
En souvenir.
Mais voilà. Il y a d'autres gens comme ça que j'ai rencontrés.
Louis de Funès n'aurait jamais fait carrière s'il n'avait pas pris le métro.
Exactement. Voilà. Et en loupant un métro, il attend le suivant. Qui rencontre sur le quai? Daniel Gélin, qui commençait sa carrière d'acteur et qui lui dit, écoute, Louis, il l'avait connu avant la guerre, si tu veux, je peux te faire un petit rôle sur la pièce de théâtre sur laquelle je joue. Et Louis de Funès disait, je dois ma carrière d'acteur à un métro que j'ai loupé. Vous avez un autre couple comme ça qui est très connu, qui est exemplaire, qui sont Serge et Beate Klarsfeld, des historiens, les chasseurs de nazis, créateurs de la Shoah, etc. Ils se sont rencontrés sur un quai de métro en 1960 à Porte de Saint-Cloud. Elle était fille au père, allemande, et lui était étudiant, parisien, fils de déporté. Son père est mort en déportation, et voilà. Le temps d'un ticket. le temps d'un
trajet. Il s'en est passé beaucoup de choses dans le métro. Le métro qui est un endroit, effectivement... Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. C'est un endroit que certains vénèrent parce que Paris, pour ceux qui sont en province, qu'ils l'apprennent, Paris est devenu absolument impossible hein, en termes de circulation, très compliqué. Donc c'est vrai que le métro est un refuge pour les Parisiens pressés. Et en même temps, quand on fait un petit sondage, eh ben, on se rend compte que le métro, certains se déplorent la saleté du métro, déplorent l'odeur du métro, déplorent... Ah bah si, c'est une
bien
réalité.
Bien sûr.
Me mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui tout à coup découvrent comment le métro est né. Et je me dis que c'est peut-être une façon de se réconcilier avec cette invention incroyable
mais
de 1900.
Imaginez un seul instant la ville sans son réseau métropolitain, elle est totalement congestionnée. Voilà. Mais si on regarde par rapport à d'autres réseaux dans le monde entier, il n'est pas cher. Quand vous prenez le métro à Londres, un billet de métro à Londres, c'est 4 euros. Quoi. Là, on est à moins de 2 euros. Enfin, à l'unité, c'est 1,90 et en carnet, c'est encore un peu moins cher. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas eu d'accident majeur. Dernier accident majeur, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'incendie du métro Couronne en 1903. Ah, je ne parle pas des attentats, ça c'est autre chose. Le métro de Londres, dans les années 70-80, sous la perte d'achat, vous avez des gros accidents dans le métro qui font des morts. Donc ça, on l'oublie aussi. C'est une vraie technologie quand même. Les ingénieurs du métro parisien, ils sont à la pointe et on a vendu ce savoir-faire d'ailleurs dans d'autres métros. Le métro du Caire a été créé par les ingénieurs du métro français, le métro de Mexico, enfin j'en passe, et des meilleurs.
Merci beaucoup en tout cas Grégoire Tonnat d'avoir accepté mon invitation. Et c'est sur la chanson Métro, c'est trop de Téléphone que je rappelle votre livre Petite histoire du ticket de métro parisien aux éditions Télémac. Et à venir, le petit quiz des Compagnons de la Libération et le petit quiz de la 13e DBLE aux éditions Pierre de Taillac en partenariat avec le Musée de l'Ordre de la Libération. Merci à vous.